bonjour à tous. Merci d'écouter Fréquence Mistral. C'est l'heure de Destination Haute-Provence, le magazine que nous coproduisons avec l'Office de tourisme communautaire de la DLVA et qui est animé par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Le thème de ce numéro est marqué par le saut de l'été.
Et oui, pendant plus de 2 mois, les visiteurs seront nombreux en Provence et c'est tant mieux. Pour eux-mêmes, bien sûr, mais aussi pour les professionnels du tourisme, de l'hôtellerie-restauration et les commerces et producteurs locaux. Il est bien loin le temps du bronzé idiot. Aujourd'hui, les touristes veulent sortir, se cultiver, découvrir les richesses d'un territoire et aussi éviter coup de soleil et mélanome malin. Le thème de notre magazine, réalisé en coproduction avec l'Office de tourisme communautaire de la DLVA, est consacré à ses atouts concernant les sorties, la culture et les loisirs en général. Nous nous rendrons à Quinçon, au musée de préhistoire des Gorges du Verdon, où Caroline Luzy nous a accueillis. Puis nous évoquerons le festival gratuit des musiques à Manosque avec Bernard Souris, qui dirige le service culturel de l'agglomération. Et nous entendrons aussi Stéphane Cosman, qui préside les Nuits photographiques de Pierre Vert, festival dédié à l'image et qui prend de plus en plus d'ampleur. Plusieurs invités en plateau également, la vice-présidente déléguée à la culture Sandra Faure et des nôtres, ainsi que Marie Tardif de l'Office de tourisme pour parler des festivités sur Gréoux. Enfin et toujours sur la cité thermale, Jean-Philippe Bartolotta nous dira comment le territoire devient une capitale estivale, notamment du VTT. Merci à tous d'être présents à nos côtés pour ce numéro radio de Destination Haute-Provence. Bonne émission. Et on ouvre ce magazine en musique ou presque. Depuis plus de 30 ans, les soirées d'été de Manosque ont un rendez-vous incontournable. Les musiques à Manosque ont succédé à Jazz à Manosque pour donner plus d'ouverture à la programmation. Un rendez-vous à la fraîche et gratuit, où le public est populaire, familial, nous ne sommes pas sur la Côte d'Azur, et les artistes apprécient. C'est ce que confirme le directeur du service culturel de la DLVA, Bernard Souris. Bernard Souris, on peut dire que Musique à Manosque, c'est une véritable institution.
Ah ben oui, ça a 35 ans d'âge, ça commence à être un bon millésime. C'est ancré sur l'été manosquin et je pense que le public attend ça avec impatience.
On peut signaler aussi qu'il y a beaucoup de découvertes musicales pendant ces 35 années, mais aussi qu'il y a un principe fondamental, c'est la gratuité.
Alors sur la découverte musicale, il y a eu quelques évolutions. Il y a eu une petite décennie où il y a eu un peu une course à l'audience, on va dire, et au public. Et on est revenu maintenant plutôt à l'ADN de musique à Manosque, sans revenir à Jazz à Manosque, bien sûr, il y a 35 ans, mais avec des artistes peut-être un peu moins bankable, peut-être moins vus à la télévision, mais sûrement de plus grande qualité, et sur des esthétiques assez varié aussi.
Et sur la gratuité ?
Et la gratuité, alors c'est l'ADN. Je n'oserais pas rappeler que certains élus, il y a de nombreuses années, ont voulu mettre le festival payant. Ça a duré la moitié d'un festival parce que je n'ai rien contre le fait de faire payer. Hein. Je pense que tout a un prix, il y a bien quelqu'un qui paye par derrière. Mais sur cette configuration, au parc de Drouilles, là où c'est placé, c'est un festival très familial et la gratuité est quelque chose de très important.
Alors justement, le public qui a assisté à ces festivals pendant des années a découvert des musiques et en plus dans une ambiance très particulière. Au parc de Drouilles.
Oui, alors le festival n'a pas toujours été au parc de Drouilles. Hein. Il a été au début aussi un petit bout au théâtre Jean le Bleu, un petit bout à la Villette, à l'ancien parking de la Villette. Et puis maintenant, depuis de très nombreuses années, il est au parc de Drouilles. Et cet amphithéâtre de verdure dans ses 4 hectares de parc, c'est un lieu sympathique. Alors malheureusement, cette année, on n'aura qu'une seule partie. Il n'y aura pas de première partie, pas de buvette. Donc on ne pourra pas savourer de la convivialité du lieu, mais c'est un lieu qui est fort intéressant. Alors, il n'est pas en plein cœur du centre historique de Manosque, c'est peut-être un peu notre problème parce qu'on arrive rarement à faire la liaison avec le centre, mais par contre, il est au cœur de la liaison entre le centre historique et tout cet habitat collectif qui est autour. où il y a un public qui va pas forcément beaucoup au spectacle, et là c'est vraiment un lieu de proximité pour tout ce public là. On peut venir avec des enfants en bas âge parce qu'ils peuvent jouer dans le parc, et puis la gratuité fait que tout le monde peut venir.
Alors il est bien équipé, il y a un amphithéâtre où on est à peu près bien assis, comme on peut l'être dans un amphithéâtre, mais il est aussi clôturé, et ça c'est une nouveauté, c'est assez récent.
Oui, ça permet de mieux contrôler les lieux, alors pas en termes de sécurité, parce que dans un festival on n'a jamais eu de problème de sécurité, mais plutôt en termes de confort. Je pense que venir écouter un spectacle, c'est une démarche. Même si c'est gratuit, on vient pas forcément en libre service pour écouter un tout petit peu et puis repartir, ou arriver en mobylette ou en scooter pour gêner les spectateurs. Voilà, donc on a un lieu qui est sécurisant pour le public et qui est confortable pour l'écoute et pour les artistes. Les artistes qui viennent à Musique à Manosque sont très très contents, certains sont revenus plusieurs fois. Ils sont contents de l'accueil, mais ils sont contents du lieu et ils sont contents du public aussi.
L'année 2021 est marquée par le Covid et bien sûr il y a des contraintes sanitaires pour le festival.
Oui, alors jusqu'à nouvel ordre, puisque tout peut évoluer, et on l'espère dans le bon sens, nous avons quelques contraintes sanitaires qui, comme tous les festivals, alors certains ont choisi de ne pas faire leur édition cette année, nous avons fait le choix de la maintenir. On a changé les plateaux artistiques initialement prévus pour avoir des artistes un peu moins bankable, puisqu'on est limité à 1960 personnes assises avec masque. Et pas de première partie, ce que je disais tout à l'heure, donc ça c'est un peu dommage parce que c'est toujours agréable de découvrir des premières parties. Et puis pas de buvette, ça aussi c'est très dommage parce que ça participe à la convivialité de la manifestation. Néanmoins ça se tiendra et j'ai confiance, le public va venir. Quelques contraintes supplémentaires, c'est-à-dire que même s'il est gratuit, il y a une billetterie, il faut retirer son billet dans les offices de tourisme de la DLVA ou sur internet, et il faut venir avec ce billet, et il faut aussi avoir un pass sanitaire, donc soit un test PCR ou antigénique négatif, soit être vacciné, avoir les deux doses du vaccin et pouvoir le prouver.
Le programme, Bernard Souris ?
Le programme, Timber Rose, le premier soir, Tom Leb, le deuxième, Ayo, qu'on avait programmé l'année dernière mais qui n'a pas pu venir, et puis Suzanne.
Bernard Souris, le directeur du service culturel de la DLVA. Et après le directeur, j'ai le plaisir d'accueillir la déléguée à la culture. Bonjour Sandra Faure.
Bonjour François.
Alors, un festival gratuit comme c'est Musique à Manosque, c'est un choix politique fort et qui est ancien à Manosque.
Oui, un choix politique qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est vrai que pour moi, c'était important de le maintenir gratuit. Et surtout en ces temps un peu compliqués, je pense, ça permet d'avoir une culture qui reste accessible à tous, et pour moi c'est vraiment un point important dans mon mandat.
Alors on peut dire que pour l'instant, je mets bien ça entre parenthèses, la jauge est fixée à 1600 personnes à peu près, mais peut-être que ça va évoluer, on croise les doigts.
On croise les doigts, oui, ça serait fabuleux. Bon,
et évidemment pour les musiques à Manosque, il faut retirer un billet gratuit, sinon vous ne pourrez pas rentrer au parc de Drouilly. On le rappelle aussi parce que c'est important. Et puis à Manosque, Sandra Faure, il y a aussi d'autres temps forts. Par exemple, les correspondances à la fin du mois de septembre. Et puis, il y a des lieux. Le Centre Giono, bien sûr, le Paraïs, la Fondation Carzou. Ce sont des atouts importants pour la ville.
Ah oui, c'est des atouts très importants pour la ville. Les correspondances, donc, ils vont présenter leur programme le 12 juillet. Avec sûrement de belles surprises en perspective, j'en doute pas. Le Centre Giono et la Fondation Carzou qui accueillent une magnifique exposition de Vincent Meunier, « Toucher le monde ». Exposition qui sera présente jusqu'au 30 octobre. Et du coup, on a une partie qui se trouve à l'Hôtel Raffin avec une sélection exclusive de photographies en lien avec Jean Giono. Et à la Fondation Carzou, l'exposition internationalement connue « Tibet, minéral et animal ». Voilà, à découvrir donc du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
C'est la fameuse Panthère des Neiges.
Exactement, la fameuse Panthère des Neiges.
Et c'est à voir, et puis puisque vous parlez de Vincent Meunier, il sera présent pour les nuits photographiques de Pierre Vert, on va en parler dans un instant. Et puis j'aurai le plaisir de l'interviewer car c'est un personnage très discret. Et pour faire ses photos, mais en même temps par rapport aux journalistes. Et donc à Manosque, il va laisser de côté sa discrétion, et c'est pas mal. Il va rencontrer le public d'ailleurs pour commenter son exposition, ce sera durant les correspondances. Et puis l'AGLO, donc l'Endurance Luberon-Verdon Agglomération, ça n'est pas que Manosque, Sandra Faure.
Et non, ça n'est pas que Manosque, c'est aussi les estivales. Les estivales qui est un événement que l'on retrouve depuis 11 ans maintenant, c'est la 11e édition. Et voilà, c'est un événement gratuit, comme les Musiques à Manosque, et auquel je tiens énormément, qu'on va retrouver dans 17 communes. Donc ça sera 16 concerts et une représentation de cinéma en plein air qui se fera à Riez exceptionnellement cette année. Et voilà, et j'espère que ça plaira au plus grand nombre, mais je n'en doute pas.
D'animer évidemment le centre-bourg de la DLVA, mais aussi les villages alentours, je pense à Valensole, Riez, vous l'avez dit par exemple. Et c'est une manière aussi de dire que la DLVA est présente sur le territoire, sur son propre territoire.
Exactement, et surtout faire profiter de la culture dans les plus petites communes qui vont pas forcément avoir les moyens d'organiser des événements. Et c'est une question d'équité, et c'est important de maintenir ce genre d'événements. Et voilà, pour que tout le monde puisse en profiter cet été, et c'est ce qu'il y a de plus important. Oui.
Une bonne chose, et réservez donc votre été pour les estivales aussi. Il y a des événements phares, par exemple, sur le territoire de la DLVA, les Nuits photographiques de Pierre Vert, seul festival des Alpes du Sud dédié à l'image. Depuis plus de 10 ans déjà, une poignée de passionnés partagent leur art avec le public. Ils ont créé une rencontre artistique et conviviale magnifique à Pierre Vert. J'ai le plaisir et le bonheur chaque année d'animer un plateau radio en direct pour Fréquence Mistral durant le festival, où de grands noms de la photographie et des anonymes talentueux s'expriment sans retenue, ce n'est pas si souvent. Et l'un des complices traditionnels de ces plateaux radio est le président des Nuits, Stéphane Kosman, à 3 semaines de l'édition 2021. Nous revenons avec lui sur le sens et la genèse de ce festival. Stéphane Kosman, comment est née l'idée du festival Les Nuits photographiques de Pierre Vert ?
L'idée était dans ma tête depuis un certain moment. Et puis mon ami François-Xavier Emery, qui habite Pierre Vert, avait un peu des soucis de santé. Donc je suis allé le voir pour prendre de ses nouvelles. Et puis, en discutant, je lui ai dit, écoute, François-Xavier, est-ce qu'on ferait pas un festival photo à Pierre Vert ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait absolument aucune manifestation dans les Alpes de Haute-Provence autour de la photographie. L'idée, c'était de démarrer quelque chose, puisque nous étions tous les deux autour de la cinquantaine. C'était un moment où on avait envie de transmettre quelque chose.
Vous avez créé donc ce festival avec d'autres photographes professionnels comme vous, et vous l'avez appelé les Nuits photographiques. Pourquoi les Nuits ?
Pourquoi les Nuits ? Alors, il y a plusieurs raisons. La nuit, parce que, comme tout le monde le sait, enfin en tant que photographe, pour préparer une exposition photo, c'est un investissement personnel et financier. L'idée de rassembler plusieurs photographes avec un souci d'économie, c'était de projeter. Et projeter en grande dimension, il fallait faire ça l'été et attendre qu'il fasse nuit. Donc attendre 22 heures, ce qui nous permettait de projeter entre 12 et 15 photographes par soir. Parce qu'évidemment, financer 12 ou 15 expositions de photographes, faire des tirages et des encadrements, c'est un autre budget. Donc on a démarré sans absolument aucun budget.
Ce qui fait l'âme de votre festival, c'est la convivialité, mais c'est aussi le fait que plusieurs expositions sont disséminées dans les rues de Pierre Vert, dans les rues Les Places, et même jusqu'à Montfuron ou Manosque.
Oui, tout à fait. Au départ, c'était essentiellement sur Pierre Vert, puisque l'écran était posé tout près de la salle polyvalente. Et puis petit à petit, on a voulu explorer d'autres lieux. Alors, il n'était pas question d'arriver dans une salle avec un faux plafond et tout ça. Il fallait trouver des endroits avec un certain charme. Donc, chapelle, ferme, cave voûtée, tout ça a été intéressant. Et on a le bonheur aujourd'hui, après plusieurs années, d'avoir une scénographe qui a rejoint l'équipe, et ce qui nous permet d'avoir des expositions de qualité en dehors des projections, puisque la projection reste quand même l'élément phare des nuits photographiques.
Sur la convivialité, Stéphane, les Pierre-Verdans accueillent les festivaliers.
Tout à fait. J'ai la chance dans mon parcours photographique de couvrir des festivals, essentiellement des festivals de cinéma. Donc au début, on a essayé, entre guillemets, de copier certains festivals photos. J'avais couvert le festival de Champs-Rousses ou d'autres festivals où j'avais noté que l'organisation du festival se reposait beaucoup sur les bénévoles. D'où est venue l'idée de demander au Pierre Verdan et même maintenant aujourd'hui, les invités sont reçus à Sainte-Tulle, à Pierre-Vert, à Montfuron, à Manosque. On a demandé aux habitants d'ouvrir leur maison. Mais c'était aussi une réflexion par rapport à ce qu'on vit, toi, moi, quand on va dans un vernissage, où on connaît l'artiste et à ce moment-là, quand on va le voir, salut François, salut Stéphane, tu vas bien. Et puis on lui parle et les personnes qui ne le connaissent pas peuvent pas l'approcher. Ou alors tu ne connais pas l'artiste et tu es là en train d'attendre un moment pour lui parler. Et puis tu te retrouves devant lui et tu as 3 secondes et demie pour échanger quelque chose. Donc là, le fait que le boulanger du village ouvre sa maison et reçoive un photographe belge, c'est différent. Parce qu'ils dînent ensemble, le boulanger apprend à planter les poireaux au photographe et le photographe lui parle de sa Belgique, de Bruxelles, et qui, son expérience de vie. Et c'était important, c'est ce qui a fait la sémantique du festival.
Il y a aussi des échanges qui se créent entre des photographes célèbres, très célèbres même, et puis des débutants ou des passionnés qui sont là et qui exposent en même temps qu'eux.
Tout à fait, c'était mettre en avant la jeune photographie. Et ça s'est fait depuis le début, puisqu'on a eu... On a eu la chance d'avoir la doyenne de Rafo, et là tu vas m'aider,
Sabine Weiss,
qui est venue, je ne sais plus, elle avait une maison dans le sud de la France, et c'est Thibaut Védrine, je crois qu'il s'appelait, qui avait 19 ans à l'époque, qui est allé la chercher à la gare, ou dans un endroit où, il y avait 2 heures de voiture, et donc ce garçon se rappellera toute sa vie qu'il est allé chercher Sabine, et que pendant 2 heures, ils ont été tous les deux dans une voiture, et ils ont pu échanger autour de la photographie. Et ça, c'était très important, parce que quand tu dis photographe célèbre, alors oui, alors il y a des photographes qui sont très célèbres, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins célèbres et que j'appelle les photographes oubliés, parce qu'ils n'ont pas su ou ils n'ont pas eu envie, entre guillemets, de se montrer, de se vendre et de montrer leurs travaux. Donc, ce sont des personnes qui sont la plupart du temps très humbles et il faut aller les chercher. Il faut dire, regarde, t'as un travail extraordinaire. Et il faut le montrer. Et c'est pour ça qu'on a effectivement une jeune photographie à Pierre-Vert, même des collectifs de photographes qui se créent à Pierre-Vert et qui reviennent 4 ou 5 ans après pour montrer ce qu'ils ont fait ensemble. Et puis il y a des photographes complètement inconnus du grand public qui ont montré leurs travaux à Pierre-Vert et qui tout d'un coup ont été mis sur le devant de la scène. Et ça, c'était important aussi.
Cette année, Stéphane, 2021, c'est la 13e édition des Nuits photographiques.
13e édition, avec, on peut en parler, on est entre nous, on célébrera les 90 ans de Peter Knapp, puisque Peter était le premier parrain du festival. Peter est un ami depuis très longtemps. Que dire de Peter? Peter Knapp, personne ne le connaissait à Pierre-Vert quand il est venu la première année, mais par contre, il nous a donné un gros coup de main. C'est lui qui a dessiné le logo. C'est lui, la deuxième année, qui nous a amené Oliviero Toscani. Et j'en passe, puisque encore cette année, c'est lui qui nous propose Paolo Roversi. Donc c'est un ami du festival, c'est un œil, c'est... Je ne sais pas par quel bout commencer pour présenter Peter. C'est le directeur artistique du magazine Elle à l'âge de 25 ans. Il vient de faire 90 ans, donc vous imaginez la carrière, C'est Dim Dam Doom, pour ceux qui connaissent ses émissions sur la mode dans les années 70. Voilà. Et plein d'autres choses.
Rendez-vous cet été, à quelle date exactement, Stéphane?
Le festival de Pierre-Vert a toujours lieu la dernière semaine du mois de juillet, sauf l'an dernier pour cause de pandémie. Mais donc on revient sur les dates d'origine. Et cette année, le festival chevauche le mois d'août, puisque le dimanche de clôture du festival sera le 1er août. Donc on est sur 29, 30, 31 et 1er août.
Rendez-vous aux Nuits photographiques de Pierre-Vert. Et pour ce qui concerne la radio, bien sûr, au plateau radio en direct. Ce sera le samedi pendant les Nuits photographiques de Pierre-Vert. Et évidemment avec des invités que j'ai hâte de connaître, puisque pour l'instant, le programme n'a pas été diffusé. Marie Tardif de l'Office de tourisme communautaire nous a rejoint. Bonjour Marie.
Bonjour François.
L'été est une belle saison à plus forte raison cette année avec et après des mois de disette sociale et culturelle.
Oui, on sent que les touristes sont là, les locaux sont là et ils ont tous envie de voir des choses, de participer à des événements et ça tombe bien, on a plein de choses à leur proposer.
Alors justement, on va voir ça avec vous, mais avant d'en parler, comment fonctionne l'accueil et puis l'information également des visiteurs au sein de vos offices ?
Alors l'Office de tourisme communautaire de l'agglomération DLVA est partagé avec 6 bureaux d'information qui accueillent les visiteurs tout au long de l'année, à Riez, Valensole, Quinçon, Gréoux-les-Bains, Manosque et Oraison. En été, ils sont ouverts tous les jours. On a aussi 3 sites internet, dont un qui est gréoux-les-bains.com, un qui s'appelle tourisme-manosque.fr et le troisième qui reprend les 25 communes durance-luberon-verdon.com avec un chat en ligne pour pouvoir répondre en temps presque réel aux touristes. Et puis cette année, nous avons mis en place une centrale téléphonique avec un agent dédié exactement à cette mission parce qu'on s'est rendu compte l'an dernier notamment qu'on avait du mal à répondre au téléphone avec l'activité et le nombre de touristes qui visitaient les bureaux d'information.
On ne vient plus à l'improviste dans un territoire, on prépare son séjour.
On a plein de manières de préparer son séjour, avec bien sûr les sites internet, mais quand même, le public aime venir dans l'office de tourisme demander des informations pour les randonnées, pour les lacs, etc. Donc voilà, c'est toujours important.
Avec la possibilité aussi de parler d'hébergement, de restauration avec vos collègues ?
Oui, toutes les informations sont prévues à cet effet. Tous les restaurants sont mis en avant, toutes les sortes d'hébergements, ça va du camping à l'hôtel, la chambre d'hôte. Donc voilà, il y a toutes les informations sur nos sites internet et dans les bureaux d'information.
Alors la saison a déjà commencé, notamment dans la cité thermale à Gréoux-les-Bains, avec déjà de belles animations, notamment le soir.
Tous les vendredis de juillet et août, effectivement, il y a un rendez-vous incontournable à Gréoux maintenant depuis de nombreuses années. Ça s'appelle les Nocturnes, avec un marché avec plein d'exposants et puis des animations pour un peu ambiancer la soirée.
Avec des animations musicales, je suppose.
Animations musicales. Et puis cette année, nous avons rajouté un peu de maquillage, plus pour les pitchouns, mais enfin, si on est un adulte et qu'on a envie de se faire maquiller, on peut quand même y aller.
Alors, on va traduire quand même pour nos amis visiteurs.
Pitchoun, les pitchouns, les enfants.
Ce sont les enfants, voilà, les petits-enfants même, carrément. Voilà. Donc, c'est à Gréoux-les-Bains. On va reparler tout à l'heure de Gréoux avec notamment Jean-Philippe Bortolotta. C'est une diversité territoriale qui est importante sur le territoire de la DLVA. Mais il y a aussi un lieu exceptionnel, c'est à Quinçon, le musée de préhistoire des Gorges du Verdon. Olivier Mouly connaît bien les lieux, il y a interviewé Caroline Luzy, responsable de l'unité scientifique et des animations. Elle évoque un double anniversaire, mais d'abord une présentation d'une exposition étonnante. Caroline Luzy.
Cette année, on a une exposition très ludique, un peu décalée. Elle s'intitule « Bienvenue chez les préhistos ». Et l'objectif, c'est de proposer au public une déambulation dans un habitat qu'on va qualifier de moderne. Et dans chacune des pièces, prétexte à évoquer le mode de vie des hommes préhistoriques. Comment on s'alimente, comment on va se divertir, comment on se nourrit, etc. Donc c'est un propos un peu décalé, un peu déjanté même, je dirais, dans le sens où ça joue un peu sur tous les anachronismes qui peuvent exister entre un habitat moderne et évidemment un équipement préhistorique.
Cela couvre une grande partie de la préhistoire.
Oui, ça couvre toute la préhistoire. Le propos est générique. Alors cette année, c'est une expo qu'on n'a pas totalement conçue. On l'a adaptée à notre espace. C'est une exposition qui a été conçue et réalisée par le musée départemental de préhistoire de Solutré. Donc un musée un petit peu de notre dimensionnement qui est aussi adossé à un site préhistorique, lui ciblé paléolithique. Donc il y a quand même une petite entrée dans cette exposition où le propos générique sur l'homme préhistorique, c'est un homme préhistorique chasseur. Donc pour les plus informés sur la question, ça correspond à la première partie de la préhistoire, le paléolithique. Mais nous, en plus de l'adaptation scénique, on y a ajouté aussi quelques éléments du néolithique, un temps de la préhistoire donc où les gens sont des agriculteurs et des éleveurs. Et globalement, donc, le propos, c'est un homme préhistorique toute période, avec des petites entrées particulières au plan chronologique, une fois paléo, une fois néo. Mais globalement, c'est l'homme préhistorique.
On rentre réellement dans un appartement ?
Ah ben, on a essayé de faire en sorte que le public s'y croit. On a un service technique très efficace, Loïc Charrière, qui a magnifiquement scénarisé tout ça, installation de cloisons, on a amoureusement choisi des tapisseries pour les murs, on a une foultitude de petits détails. Alors, je veux rien spoiler, comme on dit aujourd'hui, mais quand même, l'habitat, il est teinté années 50-60. Donc, pour les plus âgés, si je puis dire, de nos visiteurs, il y aura peut-être aussi un clin d'œil aux meubles en formica de la grand-mère ou à la tapisserie qu'on avait quand on était enfant.
Une exposition visible cet été, mais jusqu'à quand ?
Alors, cette exposition, on l'a jusqu'à la fermeture du musée, jusqu'au 15 décembre. Elle se visite facilement en famille. Il y a tout un tas d'entrées à tiroirs, et au sens propre comme au sens figuré, puisqu'il est proposé quand même d'ouvrir les portes et les placards de cette maison préhisto-moderne ou moderno-préhistorique pour découvrir l'outillage, l'habit et tout un tas de surprises sur le mode de vie préhistorique.
Pour ce qui concerne les animations habituelles du musée, existent-elles toujours cette année ? Pas de changement ?
Non, si ce n'est qu'on attend ces jours-ci là, peut-être des levées de restrictions d'effectifs dans les groupes qu'on accueille. Mais sinon, du mardi au samedi inclus, tous les jours, il y a la visite du musée, évidemment, la visite guidée le mardi et le jeudi matin. Les animations quasiment tous les après-midi et la visite à la grotte le mercredi, le vendredi et le samedi matin. Mais tout est accessible sur notre site internet. Et évidemment, tout ça, il faut penser à réserver pour pouvoir y participer parce qu'on attend beaucoup de monde cet été.
Le site ?
Museepréhistoire.com, sachant que ça s'écrit muse-e préhistoire puisque les « e » sont dépourvus de leur accent.
Vous parlez d'animation, il s'agit d'ateliers ?
Oui, des ateliers, le classique, le feu, le tir à l'arc et au propulseur, la démonstration de taille. Là, pour le coup, c'est plus une démonstration assortie d'un petit jeu pour voir si on a bien mémorisé l'évolution des techniques de taille. Ça plaît beaucoup aux enfants. Et en animation vraiment plus grand format, il y a les journées de la préhistoire. Cette année, donc, on fête en plus des 20 ans des musées, les 30e. Et ça va se dérouler le dimanche. Là, cette année, c'est vraiment sur la journée du dimanche où là, en plus du feu, du tir, il y a aussi la poterie, l'art, le tissage, la vannerie, enfin tout un tas d'ateliers qu'on peut faire, qu'on soit adulte ou enfant d'ailleurs.
Le dimanche
25 juillet.
Juste un mot pour présenter cette fameuse grotte.
Alors la grotte de la Bombonne est le site le plus anciennement occupé de Haute-Provence. Hein. C'est une grotte qui se situe aujourd'hui à une bonne dizaine de mètres au-dessus de l'eau, mais qui initialement, il est au-dessus du barrage de Quinçon aujourd'hui, initialement surplombait le Verdon d'une cinquantaine de mètres. Donc ça en faisait vraiment un lieu privilégié pour les préhistoriques. Et elle a été occupée dès 400 000 avant Jésus-Christ. Une chronologie d'occupation année après année, siècle après siècle, millénaire après millénaire. Il y a plusieurs mètres de stratigraphie, de couches empilées. Donc pour cet intérêt très long, en diachronie, ça couvre plusieurs milliers d'années d'occupation successive. Et pour ce fait, donc, c'est un site qui est classé monument historique. Donc c'est une grotte qui se visite alors uniquement avec l'un des médiateurs du musée, hein, parce que c'est un site qui est protégé, qui est clos. Et on espère bien que peut-être pour les 30 ans du musée, une reprise des fouilles, qui sait.
Et enfin, vous parliez d'anniversaire, ce sont les 20 ans.
20 ans du musée, 20 ans du musée, 20 ans de programmation, 20 ans de plein de projets. À l'issue de ces 20 ans, évidemment, un bilan s'impose. Et en termes de bilan, on est déjà dans les projections, dans les projets. Fin 2021, donc en cette fin d'année, devrait sortir de terre l'ensemble des habitats qui constituent le nouvel espace de médiation dans lequel se dérouleront tous les programmes d'activité, mais qui sera aussi en accès libre. Ça, c'est immédiatement en contrebas du musée. Donc un nouveau village préhistorique, je ne vais pas dévoiler son nom, mais il portera un autre nom. Printemps 2022, également une reprise des lectures de paysages et des dispositifs informatifs qui mènent à la grotte de la Bombonne. Et sans trop dévoiler de projets non plus qui sont en cours de montage, mais d'ici avant les 25e, on aura probablement une reprise du circuit permanent, mais là je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Caroline Luzy pour le musée de préhistoire des Gorges du Verdon. Sandra Faure, ce musée de préhistoire est géré par le conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. Le courant passe bien avec l'agglomération ?
Alors le courant passe bien. On avait des liens assez minces, nous allons dire. Mais là, depuis quelques jours, nous avons une nouvelle vice-présidence à la culture. Et du coup, j'espère que justement, on va pouvoir avoir des liens renforcés et peut-être prévoir de belles collaborations futures.
Vous allez rencontrer votre homologue du département ?
Ah oui, bien sûr. Oui, je l'espère.
Parce que c'est un joyau qui a été fait par l'architecte Norman Foster, par exemple, et puis évidemment qui attire énormément de monde. C'est sur le territoire de la DLVA, c'est une
Exactement.
Chance ça aussi.
Ah donc, oui, c'est une chance exceptionnelle dans un village magnifique du Verdon, du territoire. Et pour moi, c'est vraiment important justement que ces liens soient tissés et qu'on puisse, pourquoi pas, proposer des événements. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire et ces élections vont sûrement permettre de pouvoir avancer dans ce sens-là.
Oui, vous faites allusion évidemment au changement de majorité du conseil départemental. C'est à suivre donc. Nous restons, si vous voulez bien, au bord du Verdon, à Gréoux très exactement. Et j'accueille Jean-Philippe Bartolotta pour évoquer un loisir en plein développement, le VTT. Mais avant tout, avec vous Jean-Philippe, le cadre de Gréoux-les-Bains qui se prête à beaucoup d'activités en plein air.
Bonjour François. Oui, effectivement, Gréoux-les-Bains, c'est une destination pleine de nature, santé par excellence. Et déjà par son profil, c'est assez vallonné, donc il y a tout de suite du dénivelé. Ça s'adresse à tous les pratiquants, que ce soit sur le pratiquant famille ou le pratiquant qui avec une activité plus engagée. On a la chance aussi d'avoir les lacs très rapidement
apportés
de coups de pédale. Et le Verdon courant, quand je dis le Verdon, c'est celui qui traverse Gréoux et de plus en plus de gens profitent justement du fait des périodes un peu délicates qu'on a vécues, la période sanitaire, où ils se sont rapprochés de la nature et de cette eau courante. Donc voilà, on a toujours été orienté à Gréoux sur le développement de ces pratiques. Il n'y a pas que le VTT, hein, il y a la randonnée pédestre aussi, qui amène énormément de personnes sur le territoire, qui s'adresse aussi à tous les publics. C'est une activité en plein développement qui s'organise avec des modes de pratiques différentes. Hein. Aujourd'hui, on pratique avec des bâtons de marche actifs, des bâtons de marche nordiques. On le fait de façon plus sportive aussi, avec rajouté dans des ateliers au milieu. Que vous dire d'autre ? Il y a la pratique équestre aussi, avec deux beaux centres sur Gréoux-les-Bains, hein, au Rabel, qui est plus sur le développement de la pratique d'endurance, et puis le centre équestre de Château-Laval, où là, on est sur l'éducation, hein, des jeunes enfants, et on fait beaucoup d'obstacles à Château-Laval.
L'été, c'est un temps fort pour la saison, enfin pour vous, à Gréoux-les-Bains ?
Alors, j'aimerais vous dire oui, surtout en ce moment, hein, où on sort de périodes compliquées. Mais après, on a la chance d'avoir une saisonnalité qui est assez longue à Gréoux. Ce type de pratique se fait toute l'année. C'est un axe de développement pour nous, hein, parce qu'on peut être en extérieur, plus ou moins couvert, mais toute l'année. On a des événements aussi qui promouvoient le territoire. Cet été, on a deux beaux événements à Gréoux. On a les Olympiades de Gréoux, le 24 et le 25 juillet, où alors là, c'est des sports outdoor, où on va avoir du VTT, du trail, du tir à l'arc, du kayak sur le Verdon. Donc sur deux jours, hein, c'est une nouvelle manifestation qui est portée par le comité officiel des fêtes. Et puis on a la fameuse Bike and Bee à Gréoux-les-Bains. Donc c'est sa quatrième édition, ça sera fin août, le 28 si je ne me trompe pas. Donc c'est une épreuve nocturne parce que le club local qui est partenaire de l'office intercommunal de tourisme, le Team Gréoux Bike, développe toute l'année ce type de pratique en nocturne, même en hiver. Donc avec des frontales, avec des gros éclairages. Et c'est une autre vision de la pratique et du VTT en Provence.
C'est vrai qu'en été, il vaut mieux faire du VTT la nuit qu'à 2h de l'après-midi, par exemple. Ouais, c'est pas très conseillé.
Alors cette année, peut-être un peu plus conseillé que les autres années, parce qu'on n'a pas un été très chaud, on a des nuits fraîches.
Pour l'instant.
Mais l'année dernière, ça chauffait déjà pas mal. Effectivement. Alors on a la chance d'avoir le lac, la rivière et tout. Alors moi qui pratique... On s'arrête, on profite, on se rafraîchit, mais c'est sûr qu'il vaut mieux partir de bonne heure ou même en soirée. Quoi.
Et avec un bon équipement aussi, et prévoir, toujours anticiper.
J'en profite du moment, mais lorsqu'on fait du vélo, même pour faire ses courses, il faudra avoir un casque. Ça serait presque une obligation, hein, c'est ce qu'on fait nous. Alors des fois, c'est pas évident parce qu'on a une tenue presque de ville avec les vélos assistance électrique, mais avec un casque sur la tête, ça fait un peu bizarre, mais c'est quand même sécurisant. Et nous, pratiquants, on a vu l'efficacité d'un casque lorsqu'on tombe. Et je vais pas être pessimiste, mais moi, ça m'a servi, ça m'a arrangé. Quoi,
mais bien sûr, c'est un conseil que l'on donne à tous les cyclistes, notamment en réseau urbain aussi.
Exactement.
Donc, quel que soit
surtout
le vélo.
Dans notre territoire, si je peux parler un peu, où on a très peu d'équipement et d'aménagement de pistes cyclables. Donc encore plus ici. Quoi. Et surtout que, je reviens sur le vélo, on a quand même, et même sur nos territoires ruraux, 20% de développement de la pratique en plus. Pas que sur la vente, de la pratique, du mode de consommation, du mode de déplacement qui a changé. Et nous, on le voit aussi sur Griou.
Alors, vous avez parlé des vélos à assistance électrique. On trouve, Jean-Philippe, maintenant des vélos à assistance électrique qui sont des VTT aussi.
Ah ben oui, moi j'ai les deux, à mon grand âge. non, mais en fait, ce qui est intéressant...
Un sans et un avec.
Voilà, exactement. Alors, si on a les moyens d'avoir les deux, c'est top. Mais où c'est remarquable, le vélo à assistance électrique, c'est que ça permet justement à tous de pratiquer. Mais c'est surtout sur les différents problèmes de santé. Donc, ça rend la pratique accessible sur les problèmes mécaniques, par exemple un genou, une hanche. On est accompagné sur les maladies cardiovasculaires aussi. Donc c'est assez intéressant et je tiens à souligner qu'à Gréou, on a été le premier office à proposer des vélos à assistance électrique en location en 2008. Alors à l'époque, on nous traitait de fous. Aujourd'hui, je crois qu'on a même des voitures en location, ou on avait. Donc voilà, donc c'est très intéressant avec le public qu'on reçoit. Et c'est intéressant d'un point de vue touristique aussi parce que ça permet de faire beaucoup plus de kilomètres. Et donc on n'est plus du tout sur les mêmes volumes, donc les gens se déplacent et il faudrait qu'on s'organise au niveau du territoire, là je parle pour la DLVA, justement pour aménager progressivement. On a ce projet sur Gréou, je ne sais pas si je dois en parler parce qu'on va peut-être nous piquer l'idée, mais de faire des
stations. Restez secret.
Voilà, non, mais il faut, parce que moi si ça peut pousser à ce qu'il y ait un développement sur le territoire. C'est intéressant, c'est justement, on a des super vélos à des prix conséquents. Un vélo assistance électrique, c'est très cher, c'est le prix d'une moto. Et il y a des stationnements anarchiques un peu de partout, quoi, que ce soit à Gréou ou ailleurs. Donc, ils accrochent leur vélo à des lampadaires, à des bancs, n'importe où. Et puis, donc, si on peut se permettre d'accueillir ce touriste-là avec du stationnement, et pendant ce stationnement, il existe aujourd'hui des structures comme ça qui permettent de recharger son vélo, mais les gens peuvent, de façon sécurisée, aller faire leurs courses, leur vélo se recharge. Et je pense qu'il faut qu'on se dote, nous, si on veut vraiment développer cette filière qui va faire qu'exploser, aménager le territoire progressivement de ce type d'aire d'accueil, quoi.
Améliorer l'accueil, effectivement, pour les cyclistes, et notamment les cyclistes électriques, on
va
les appeler
comme
ça. Oui,
parce qu'il y a des normes aujourd'hui, il y a des pneus plus larges, donc avec les ranges vélos qu'on a aujourd'hui, leur vélo ne rentre pas, c'est assez particulier.
Alors, pour ces matériels, avec des tarifs, etc., où est-ce qu'on s'adresse, Jean-Philippe ?
Alors, on peut faire de la pub ?
Bien sûr.
Ah, donc, on a plusieurs... alors, ça se passe sur Manosque, on a les cycles Bachelas, bien sûr, hein, qui sont installés depuis... de multiples générations. Alors j'ai peur d'oublier quelqu'un, hein, mais il y a Intersport à Manosque, il y a New Slick à Manosque. Il faut savoir qu'à Gréou, depuis quelques années déjà, justement, les cycles Bachelas proposent du vélo assistance électrique et du vélo tout court, musculaire, à la location. Après, je m'excuse si j'oublie, je crois que sur Horizon, il y avait, je ne sais pas s'il y a toujours, je n'ai pas révisé mes classiques, mais il y a une belle offre sur le territoire.
Il y a certainement donc un vendeur de cycles à proximité de chez vous,
complètement, oui.
Et n'hésitez pas à aller les voir, et puis vous pouvez aussi louer du matériel.
Oui, à Quinçon, je crois, depuis
peu. À Quinçon, tout à fait, depuis peu.
Et je crois qu'ils louent même des trottinettes électriques, si mes souvenirs sont bons, ou des choses comme ça, quoi.
Je suis plus partagé sur la sécurité en ce qui concerne les trottinettes par rapport aux
cycles. Ah non, mais là, c'est des trottinettes outdoor et...
Restons sur les vélos si vous voulez bien. On arrive à la fin de notre émission. On va bousculer un petit peu l'antique galanterie par rapport à mes invités. Je vais commencer par vous, Jean-Philippe, vous demander une conclusion en quelque sorte à votre intervention. Vous mettez votre passion de gré ou à la portée de tous et à partager.
Alors la conclusion, je suis content d'avoir passé la matinée avec vous.
Nous, c'est de même.
Mais j'espère justement, la conclusion, je vais la faire sur une note positive. J'espère qu'on va sortir de cette situation et qu'on va pouvoir retourner à une vie normale. Donc où on va pouvoir profiter des spectacles, profiter de toutes les activités physiques et sportives que peut proposer ce beau territoire.
Belle conclusion. Maintenant, c'est au tour de Marie Tardif. Marie, votre été, il va être plutôt actif.
Ah oui, comme tous les étés sur ce territoire et en particulier à Gréoux-les-Bains, je vous donne rendez-vous, donc, comme je disais tout à l'heure, les vendredis soirs pour les nocturnes avec des animations musicales. Tous les mardis soirs à 19h, vous aurez aussi un concert sur la placette Pauline, très bel endroit de Gréoux pour faire des concerts. Et puis à partir de mercredi, vous pourrez venir voir Souvenirs des collines, une proposition de la compagnie dans la Cour des Grands, à côté de Marseille, qui travaille sur tout le registre de Pagnol et notamment des souvenirs de la gloire de mon père. C'est à Château Laval, la première date, mercredi 7 juillet à 19h. Et d'ailleurs, j'offre deux places aux premiers qui répondront à votre radio. Et je crois qu'il faut envoyer un mail à...
contact@fréquencemistral.com.
Voilà, donc les deux premiers, venez
si vous voulez
profiter.
Assister au cours du père de Marcel Pagnol.
Exactement.
Et bien, c'est le moment.
Ça sera dans les collines de Château Laval. Et puis, voilà, il y a plein de rendez-vous tout l'été. Il y a le 14 juillet avec le feu d'artifice, et puis à la foire du 15 août, et puis il y a ce rendez-vous devenu incontournable qui s'appelle Gréoux de Janeiro, du 28 au 31 juillet, où là l'ambiance sera caliente à fond, et on vous invite à venir partager ces moments festifs à Gréoux-les-Bains.
Quelle belle trouvaille, Gréoux de Janeiro. Bien, merci beaucoup Marie, bon été quand même malgré tout, et puis
merci.
Je sais que c'est du plaisir aussi, c'est vraiment des activités passionnantes. Sandra Faure, des vacances pour vous ?
Alors oui, des vacances un petit peu au mois d'août, on va laisser passer tous les beaux événements qui vont arriver principalement sur juillet, et elles seront prises juste après les rencontres Jean Giono qui se feront au Paraïs du 4 au 7 août, et je partirai derrière.
Et on vous retrouvera pour les correspondances,
Exactement, évidemment,
en septembre.
Tout à fait, pour les correspondances.
Merci Sandra Faure, merci Marie Tardif, merci Jean-Philippe Bortolotta. Et puis, merci aussi à Olivier qui a réalisé une interview et puis qui assure, comme toujours, la régie de main de maître. À très bientôt.